Adjéré, Père Philippe, 31 janvier 1984, Saint-Joseph.
Nous allons essayer de comprendre l'exigence de la vertu de force et de tempérance. Après avoir essayé de comprendre la naissance de la prudence, puis celle de la justice, il faut maintenant comprendre la nécessité de poser une vertu de force et une vertu de tempérance. Pour comprendre ça, il faut saisir la manière dont l'irascible doit être tout imprégné de la prudence, de l'intelligence pratique, pour que l'irascible puisse être au niveau humain. On passe d'un niveau à l'autre, c'est ça qui est important à saisir. Le point de vue moral a une diversité d'activités, mais il a une certaine unité, puisque c'est tout l'homme qui doit être mobilisé pour sa fin dernière. C'est le propre de la vie morale, de faire que progressivement, il y a une certaine unité dans notre vie, tout en respectant la diversité. Il y a une diversité d'opérations, il y a une diversité de puissance vitale en nous. Il faut comprendre comment se fait l'unité. L'unité se fait, au point de vue moral, autour de la prudence. C'est la prudence qui, c'est-à-dire l'intelligence pratique au service de la fin, au service d'un bien capable de nous finaliser. Et c'est la prudence qui va faire le lien et l'unité à travers toutes nos activités morales, qui va nous permettre d'avoir la responsabilité de l'orientation de notre vie. Quand il n'y a pas de prudence, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité continue. Nous pouvons faire un acte de responsabilité, puis on est fatigué, et le lendemain, il n'y a plus personne. Ça arrive, ça. Pendant une heure, on arrive à faire quelque chose qui est bien. Puis après, on est fatigué, il n'y a plus personne. Et puis on dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ah, mais j'étais fatigué. Tout simplement. Vous voyez, la prudence met la continuité dans notre responsabilité. C'est peut-être un des aspects que je n'ai pas suffisamment souligné à propos de la prudence. Mais c'est pourtant très important, cela. Surtout quand on regarde la prudence qui va avoir son rôle à l'égard des passions. L'aspect passionnel en nous, et c'est le propre de l'aspect passionnel, c'est qu'il est en dents de scie. Tout être passionné est en dents de scie. C'est-à-dire, aujourd'hui, un beau soleil merveilleux, on est prêt à faire n'importe quoi. On irait à pied à Rome. C'est bien évident. Alors, allez-y. Mais il y a le lendemain. Alors, le lendemain, on dégringole très bas. Ça, c'est la passion. La passion est en dents de scie. Il n'y a pas de durée. C'est ça que vous ne pouvez pas compter dessus. Parce que tant que le soleil brille, ça va. Tant que la passion est à son pôle positif, ça va. On reconnaît ça chacun d'entre nous, hein, plus ou moins, parce qu'on est plus ou moins humanisé. C'est-à-dire qu'on est plus ou moins transformé par la prudence. Alors il y a une certaine unité qui se fait en nous. Mais quand il n'y a pas la vertu de prudence, immédiatement une tendance. Ça, c'est sûr. Alors, pour soi, ça va à peu près, mais pour le voisin, c'est très gênant. Parce que vous aviez compté sur quelqu'un, vous aviez demandé de faire tel travail, par exemple. Normalement, ça demandait une certaine continuité. Puis ça dure une heure. Puis on ne dit rien. Rien ne se fait. Et on demande pourquoi. J'étais fatigué. Et on n'a même pas prévenu. La passion ne prévient pas. La passion est individuelle, est tout à fait individuelle. On est seul. Un être passionné est toujours seul avec l'objet de sa passion. Mais il est seul au fond. C'est la prudence qui permet la continuité, donc d'assumer les passions en leur donnant une continuité. L'esprit implique la continuité. C'est l'esprit qui continue, qui a la continuité. Et qui implique aussi, si on est fatigué, de le reconnaître, d'en avoir conscience, et donc de le dire. Parce qu'on m'a confié ce travail, et ça c'est l'intelligence qui fait les relations. La passion ne fait pas de relations. C'est très curieux un être passionné. C'est très curieux, c'est très intéressant à regarder. Mais à vivre un certain temps, c'est quelquefois beaucoup plus difficile. Parce que l'efficacité de la passion, hein, quand il y a une certaine efficacité dans un domaine particulier, ça prouve que la passion commence à être éduquée. Mais quand il n'y a aucune efficacité dans aucun domaine et aucune continuité dans aucun domaine, ça prouve qu'on est un cheval passionné, sauvage, non éduqué. C'est extraordinaire ça, de voir ça. Non éduqué, il y a quelque chose qui fait que c'est dans le si. Il faut réfléchir sur ce que c'est que ça. Parce que c'est très important, vous voyez, de voir là la manière dont la prudence va se servir, va éduquer. C'est l'auto-éducation de soi-même. Quand on arrive à un certain âge, on ne peut plus avoir une mémé derrière vous qui dit exactement ce qu'il faut faire. C'est impossible. C'est impossible. Il faut donc prendre en main sa destinée. Possible autrement. Il y a quelque chose qui fait qu'on prend en main. On doit avoir son auto-éducation. C'est toute l'éducation, vous savez, la question de la prudence. Et toute l'éducation, toute la philosophie de l'éducation repose sur la question de la prudence. Alors, la prudence nous donne une certaine autonomie. Ça nous donne une certaine autonomie. On a une certaine autonomie grâce à la prudence. On a la possibilité d'être nous-mêmes et d'avoir une orientation de ce que nous avons voulu, des intentions de vie. Et donc l'intention de vie met une durée, une continuité, une fidélité. On est fidèle. On sait qu'à certains moments il peut y avoir des défaillances. On le sait. On est conscient. La prudence nous donne conscience. Se conscienciser, comme on dit aujourd'hui, c'est la prudence. C'est la prudence qui rend conscient les marais profonds qui sont en nous. Les marais avec les fièvres paludiennes. Alors, c'est les marais profonds qui sont en nous. Et les marais profonds, c'est le concupiscible. C'est à la cave, le concupiscible. Et l'irascible, un peu plus élevé. Le concupiscible et l'irascible, c'est les marais sensibles qui sont en nous. C'est le sensible, le patient, tout le domaine des passions, qui est en danse. 11 passions, c'est anarchique. J'avais dit, les passions sont anarchiques. Vous pouvez dire maintenant, comparativement à la prudence, c'est en danse. C'est comme ça. Vous savez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Vous savez, plus loin. Alors, évidemment, quand vous êtes en haut, ça, c'est le plein soleil. Mais très, très vite, ici. Et vous ne pouvez pas le prévoir, vous voyez. Quand vous êtes fatigué, prudentiellement, vous dites, je suis fatigué. Je demande de me reposer un peu. Ça, c'est la prudence. C'est pas la passion. La passion, ah oui, donnez-moi tout ce que vous voulez faire, je ferai. Vous y mettez une demi-heure, une heure, puis après, plus rien. Vous vous asseyez, ou bien vous vous couchez. Et puis, il n'y a plus rien du tout. Et vous n'avez averti personne. Non, personne. Vous n'êtes même pas conscient d'avoir croulé. On s'endort. Ça, c'est la passion. Alors, la prudence, oui, doit arriver à rendre humain ces passions. C'est l'auto-éducation de soi-même. Parce que les marées paludiens, c'est ça. Alors, il y a les fièvres froides et les fièvres encore plus aiguës. Parce que les deux, concupiscible et irascible, hein, ça dépend des moments. Et c'est cela qu'on va faire les vertus. Il faut bien comprendre comment il y a une possibilité de rendre continu et conscient nos passions, d'irascible et de concupiscible. Parce que la prudence est reçue dans l'intelligence pratique. Est au service donc de l'appétit spirituel, c'est-à-dire notre amour spirituel. Alors, pour que l'amour spirituel s'empare du concupiscible et des racines, on passe par la prudence qui va venir transformer, rendre salubre, rendre humain le concupiscible et les racines. C'est ça qu'il faut essayer de saisir. C'est très beau, du coup, ça. C'est très intéressant à saisir. On peut tous en avoir l'expérience. Hein, parce qu'on a tous quand même un état embryonnaire, la prudence et la vertu de force et la vertu de tempérance. On a au moins un état embryonnaire. C'est peut-être pas très fameux, mais c'est quand même un état embryonnaire. Donc on peut en avoir une petite conscience. Et on peut très bien avoir conscience aussi des moments où la prudence n'est pas assez éveillée. Et ça, on voit très fort ça chez les artistes. Ordinairement, ils ont un développement extraordinaire de l'art et beaucoup moins de la prudence, hein, d'un point de vue artistique. Beaucoup moins. Ne regardez pas les artistes pour voir le modèle de la prudence. Vaut mieux pas. C'est quand vous regardez les artistes pour comprendre le modèle de la prudence, ordinairement, c'est pas tout à fait ça. Eh bien, justement, chez les artistes, on sent très fort ces montées, ces descentes. Et vous dites, c'est normal, c'est un artiste. Je suis en état de grâce, comme il dit. Ah, non, plus rien. Et vous ne l'avez pas dit. Oh, ben non, pas la peine, c'est moi. Il faut écouter, de temps en temps, une épouse, quand elle épouse un artiste, il ferait bien de me le dire. Mais non, il ne le dit pas. Ce serait prudent. Non, ce serait la prudence que vous. Or, ce n'est pas la prudence qui brille chez lui, c'est l'art. Et l'art. Alors l'art, c'est encore l'intelligence, mais c'est une intelligence tout à fait différente, parce que c'est polariser les forces passionnelles en vue d'une œuvre. Alors tant qu'il est plongé dans son œuvre, c'est ça. Et comme il doit bien la faire, les jours où justement il n'est pas en état de grâce, il y sera tombé. Tout simplement, il sera dans le discontinu. Les artistes sont très dans le discontinu. Artiste, vous voyez qu'il est très très fort dans le discontinu. Tandis qu'on voudrait être l'homme prudent dans le continu. Ça, c'est tout à fait différent. C'est autre chose. Alors, vous comprenez qu'un homme prudent qui regarde un artiste, C'est une poule qui a couvé un canard. C'est absolument... Elle ne comprend rien du tout. C'est autre chose. C'est un artiste. Pas commode, hein. Il faut comprendre ça, il faut comprendre en nous. Parce que nous devons essayer autant que possible d'avoir, si nous sommes plus séduits artistiques, que nous devons développer cette habitude-là. Très bien. Mais nous devons développer aussi la prudence. De temps en temps, il y a une espèce d'opposition entre les deux. Pas toujours tout seul, hein, entre l'art et la prudence. C'est très différent. C'est pour ça que certains êtres, il faut les pousser du côté artistique et donc du côté de la prudence. C'est une question d'auto-éducation. Ou de l'éducation par rapport aux autres. Quand vous voyez quelqu'un qui est très doué au point de vue artistique, attention, ne d'exigez pas de lui la prudence qu'il faut normalement dans une vie commune. Parce que c'est autre chose. C'est très différent. Alors arrivera-t-il à s'adapter à la vie commune ? Prudence. Savoir si l'intellect pratique ordonné à l'amour est suffisamment développé. C'est plus facile pour un tempérament affectif de devenir prudent que pour un tempérament artistique de devenir prudent. Très curieux ça. Et ça, il faut bien le saisir. C'est plus facile pour un tempérament affectif. Parce que l'affectivité, on comprend que la prudence peut être au service de l'affectivité. Tandis que c'est très difficile, la prudence n'est pas au service de l'art. Possible. Possible. Alors évidemment, il y a des options différentes, parce que l'art ne finalise pas une vie. Donc, il faut comprendre l'intention de vie. L'intention de vie qui porte sur un bien. Alors, quand il s'agit d'un bien surnaturel, c'est plus facile d'allier un bien surnaturel et l'art que d'allier un bien naturel et l'art. Et vous comprenez pourquoi. Parce que le bien surnaturel, il est éclairé par la foi, donc il transcende. Et donc il peut très bien ne pas y avoir d'opposition. Un contemplatif d'une contemplation mystique peut très bien être un artiste. Tandis que c'est beaucoup plus difficile d'être un artiste et d'être un homme politique. Ordinairement, les hommes qui s'engagent dans la politique ne sont pas des grands artistes. Ordinairement. Et ordinairement, quand vous verrez un homme très artiste, vous ne lui donnerez pas comme conseil présenter vos élections. Parce que vous avez un art merveilleux. Mais s'il a un art rhétorique merveilleux, il pourra faire très beau discours, mais après, ce sera très difficile. Il pourra faire de très beaux discours. Ça existe même en politique. Alors ils sont excellents pour l'élection, mais pas pour après. Pour les élections, ils emportent tout. Parce qu'ils ont un art rhétorique. Ça existe. On en voit certains. On voit qu'ils ont un art rhétorique très grand, mais rien du tout après. Alors c'est un chic énorme. De temps en temps, un discours pour remonter le moral, tu vois, mais ça a de moins en moins de force. Parce que ils sont pas du tout prudents. Pour gouverner, il faut la prudence. Impossible autrement. Et le gouvernement est une prudence qui est une prudence politique. Et la prudence politique exige la prudence personnelle. Vous ne pouvez pas avoir une prudence politique sans avoir la prudence personnelle. Impossible. Vous pouvez avoir une prudence personnelle sans avoir la prudence politique. La prudence politique implique nécessairement d'avoir une certaine prudence personnelle. On ne peut pas gouverner sans le point de vue politique, sans le point de vue de la prudence politique. Donc, comprenons comment, dans l'homme, c'est ça qu'il faut saisir, dans l'homme, il doit y avoir une possibilité d'un rayonnement de l'intellect pratique sur les appétits passionnels pour que la prudence puisse transformer l'irascible concupiscible. Et c'est ce qu'on dit habituellement. Il faut bien comprendre dans ce qu'on dit habituellement. On dit, Aristote l'a dit, saint Thomas l'a répété à la suite d'Aristote, il s'agit de bien comprendre que dans l'homme, les appétits sensibles d'irascible et le concupiscible participent à l'intelligence. Toute cette partie qui sont le point de vue des passions, qui implique l'imagination, participe à l'intelligence, participe à la raison. Si l'irascible et le concupiscible ne participaient en rien à la raison, ils ne pourraient pas être sujets de vertu. La condition sine qua non pour qu'il y ait une auto-éducation de l'irascible et du concupiscible, c'est que l'irascible et le concupiscible participent à la raison, participent à l'intelligence. Et ils participent à l'intelligence, vous comprenez comment ? Parce que c'est le même homme qui est intelligent et qui est passionnel, et qui a les passions. Donc il y a une participation. Très difficile de préciser ce que c'est. Vous savez, ordinairement, on dit participation, on ne sait plus quoi dire. C'est un mot clé, magnifique, étonnant, qui dit tout et qui ne dit rien. C'est ça qu'Aristote dit, participation, ça ne signifie rien. Il dit ça en métaphysique. Il comprend très bien ce qu'il veut dire. Mais ce n'est pas juste de dire que ça ne signifie rien. On participe. C'est-à-dire qu'on est dans un état de dépendance. C'est-à-dire qu'on est dans l'état de celui qui ne peut pas se définir par lui-même. On est relatif, on est second. C'est ça, être dans cet état de participation. Et c'est pour ça que ça ne signifie rien. Parce que qu'est-ce qui signifie quelque chose ? C'est la source de la participation. C'est l'intelligence considérée en elle-même qui a sa propre signification. L'intelligence présente dans l'irascible, présente dans le concupiscible, c'est très très difficile à préciser. Vous pouvez avoir conscience de votre irascible quand vous êtes en colère. Cherchez quand vous êtes en colère, qu'est-ce qu'il y a d'intelligible. Et c'est pourtant la colère, l'irascible, qui est la passion la plus noble, celle qui participe le plus de l'intelligence, nous dit saint Thomas, par notre expérience. Donc, c'est la colère et l'irascible qui est la passion la plus noble, donc celle qui participe le plus à l'intelligence. Quand vous êtes en colère, réfléchissez à la dernière colère que vous avez. Quand vous êtes en colère, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous trépignez et vous voulez agir. Descendre dans la rue. Et manifester. Et dire qu'on en a par-dessus la tête. N'est-ce pas ? C'est ça qu'on veut dire. Alors on le dit proprement, on le dit salement, ça dépend des gens. Mais on le dit, on en a par-dessus la tête. On est devant des injustices qu'on ne peut plus supporter. Le vase est plein, alors on se met en colère. Alors j'ai supporté ça, ça, ça. Puis à ce moment-là, vous avez une mémoire prodigieuse. C'est extraordinaire, vous voyez comme c'est lié à l'intelligence. Quand on est en colère, on a une mémoire prodigieuse. Toutes les choses qu'on a retenues, mais tout d'un coup, ça dépasse. Hein. Maintenant, je ne peux plus. Ça arrivait vraiment à un moment, je ne peux plus. C'est, vous voyez le côté de l'intelligence. L'intelligence est très présente dans l'irascible et dans la colère. On se rappelle tout. Et avec des détails extraordinaires. C'est pour ça que le sang nous vient. Nous vient à la tête, on est furieux. Il y a quelque chose, on voit bien, ça ne peut pas durer. Ça doit éclater. On est devant une injustice. L'intelligence juge qu'il y a un désordre. Et c'est ce désordre qui est insupportable. Et c'est ce désordre qu'on veut rétablir. Vous vous mettez en colère pour détruire et en vue d'un autre ordre. Toute vraie colère est comme ça. C'est pour ça que la colère n'est pas simple. Elle est toujours... On veut détruire. Quand on est en colère, on détruit. C'est bien évident que quand vous êtes doux, paisible, vous n'avez pas envie de détruire. Mais dès que vous êtes en colère, vous prenez n'importe quoi qui est près de vous. C'est pour ça qu'il faut écarter les objets. Vous prenez aussi bien une bouteille, vous tapez dessus, blablabla, pour que ça fasse du bruit. Et montrez votre puissance de destruction. Vous voulez détruire. Quand vous êtes en colère, vous voulez détruire. Et vous détruisez pour supprimer un désordre. Alors il y a un geste symbolique, toujours, c'est très curieux, il y a un geste symbolique, on détruit n'importe quoi, parce qu'on veut détruire ce désordre, et on va en même temps construire. C'est en ce sens-là que la colère, l'irascible, c'est la passion la plus proche de l'intelligence. C'est pour ça que c'est la passion la plus noble. C'est ce qui doit nous pacifier un peu quand on se met en colère, hein. C'est-à-dire, c'est la passion la plus noble, ça vient. C'est bien, c'est le terrain devient salubre, parce que en fait, l'intelligence est présente dans cet irascible et permet à l'irascible d'être quelque chose de plus lié à l'intelligence, lié à la prudence. Bon, vous voyez pourquoi et comment l'irascible peut être éduqué. Parce qu'il y a une participation de l'intelligence. S'il n'y avait pas une participation de l'intelligence à l'intérieur de mes passions ne seraient pas éducables. Et je prendrais le point de vue des stoïciens qui disent que les passions sont en elles-mêmes mauvaises et donc il faut les supprimer et pas chercher à les éduquer. Alors je ne dirais pas du tout. Les passions en soi sont bonnes, il faut chercher à les éduquer. Parce qu'elles participent à l'intelligence. Deuxièmement, les passions participant de l'intelligence ont besoin de la vertu. Parce qu'elles ne sont pas par elles-mêmes suffisamment déterminées vers le bien spirituel. Autrement dit, les passions demandent d'être ennoblie par les vertus. Les vertus, la vertu de force, ennoblit l'irascible. Et quand je dis ennoblit l'irascible, c'est-à-dire permet à l'irascible d'être pleinement lui-même. La vertu ne supprime pas la passion, mais elle purifie la passion et elle permet à la passion d'aller jusqu'au bout de ses exigences. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a un être vertueux, c'est un être qui n'est pas passionné. Pas du tout. Un être vertueux, c'est celui qui domine ses passions et qui les a ennoblies. Mais un être vertueux est un être passionné. S'il n'était pas passionné, il ne serait pas vertueux. La vertu de force réclame un irascible fort. Vertu de force réclame un irascible fort. Et la vertu de force permet à l'irascible d'aller jusqu'au bout de sa force. C'est pour ça que quand on a cassé l'irascible, ça peut arriver. Des gens qui, dans leur jeunesse, ont eu des autorités trop, ont été en présence d'autorités trop fortes. Alors on a cassé l'irascible. Quand l'irascible est cassé, plus de vertu de force. Ça, il faut le reconnaître. C'est difficile, ça repousse. Ça peut repousser. Parce que la faculté de... Mais rééduquer pour que la bureaucratie recommence à vivre. Quelqu'un qui était en face d'une autorité trop forte, qui a été comme écrasé, c'est ce qu'on dit habituellement, il est écrasé. Et c'est l'irascible qui est écrasé. C'est pas le concupiscible, il n'y a pas de danger de concupiscible. Parce que le concupiscible, quand il est écrasé à un niveau, il plonge plus profondément, il retrouve un autre niveau plus profondément. C'est des nappes successives. Alors, on peut très bien tarir un aspect, ça replonge. C'est très très curieux, ça. Et c'est très curieux de voir la différence dont l'irascible est arrêté, le concupiscible est arrêté. Ce serait intéressant parce que dans Freudisme, on n'a pas fait la distinction entre les deux. Le transfert de l'irascible et du concupiscible sont mis de la même côté. Alors que non, il y a deux transferts très différents. Et il y a deux inconscients très différents. L'inconscient qui provient de l'irascible et l'inconscient qui provient du concupiscible n'est pas le même. Et ça, c'est important à voir. C'est très important à saisir. Parce que ce n'est pas la même chose. L'irascible, il peut être écrasé. Et quand il est écrasé, l'irascible, il se tait. C'est tout. Il est écrasé. Alors on n'a plus aucune vertu de force. On ne peut plus se dire de nous. On est dans l'abandon psychologique. Vous savez ce que c'est, l'abandon psychologique. On n'avait plus aucune détermination particulière. Vous avez la forme de la cuillère dans laquelle vous vous trouvez. Si c'est une louche, ça va. Et si c'est une petite cuillère, alors vous devez tout petit, tout petit, tout petit. Voyez, ça, c'est l'abandon psychologique. L'abandon psychologique, c'est justement le fait qu'il n'y a plus d'irascible. L'irascible a été écrasé. Là, il n'y a plus de force. Alors, il faut donc comprendre que la vertu va ennoblir l'irascible pour permettre à l'irascible d'aller jusqu'au bout de ses exigences. Voilà ce que fait la vertu. La vertu ne détruit pas, mais la vertu ennoblit. Et elle ennoblit ce que représente la passion d'irascible. Alors, que fait exactement la vertu de force? La vertu de force regarde le bien difficile. L'irascible regarde le bien difficile. Or, de fait, la vertu de force n'apporte pas un nouveau bien, mais elle met le bien difficile en liaison ordonnée au bien spirituel. Et elle marme pour la conquête de ce bien difficile. La vertu de force me permet d'acquérir un bien difficile. En vue du bien spirituel, pas pour lui-même. Je ne m'arrête pas à la conquête d'un bien difficile sensible. Mais c'est un bien difficile sensible que je désire acquérir en vue du bien spirituel. Puisque ça, c'est propre de la vertu, c'est de relier. Toute vertu est reliée à la prudence. Vous comprenez bien, c'est donc la prudence présente dans l'irascible. C'est la prudence présente dans l'irascible. Et donc, c'est la prudence qui, présente dans l'irascible, va permettre à l'irascible de rejoindre l'intention profonde et d'être au service de cette intention profonde. Je mobilise tout mon irascible dans la vertu de force pour la conquête. C'est une vertu, c'est les passions conquérantes. Les passions chevaleresques. Elles sont conquérantes. Et ça, c'est l'irascible. C'est celui qui n'a pas peur du combat. Ça, c'est la vertu. Et c'est l'irascible qui vous y pousse. Hein. On va vers le combat. On n'en a pas peur. On sait trop bien ce que c'est. Et alors, on sait qu'on peut arriver à dépasser ces difficultés-là pour le bien spirituel. Pour le bien personnel, il s'agit de philosophie, je ne parle pas de bien surnaturel, mais de bien personnel, l'ami, la conquête de l'ami, Il y a des difficultés, je le sais bien, le contexte n'est pas commode, mais l'amour de l'ami va me permettre d'être fort. Et va me donner la force qu'il faut pour permettre à mon irascible d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est très beau, la vertu de force. Hein. Il y a quelque chose de grand dans la vertu de force. Parce que c'est l'irascible au service d'un bien spirituel. D'un bien humain spirituel. La vertu de force est toujours en face d'un bien difficile, donc un bien qui implique l'ennemi. Un bien est difficile quand on doit l'arracher de l'ennemi. C'est pour ça que la vertu de force regarde les dangers de mort. L'ennemi peut m'écraser. Les difficultés, le bien ardu peut m'écraser. Alors, je suis fort quand je peux regarder en face un danger imminent. Quand je suis en présence d'un danger imminent, d'une mort possible imminente. Je suis fort quand je peux le regarder en face. Tandis qu'au contraire, lorsque il n'y a pas la vertu de force, alors je tremblote, hein, et je suis dans un état tel que l'émotion est tellement forte que je ne sais plus du tout ce que je fais. Je me mets à plat ventre, parce que c'est dans la situation où je n'ai plus de surface. Et donc, c'est comme ça que je pourrais le mieux résister, vous comprenez ? C'est-à-dire m'aplatir. Hein, et je laisse passer les balles. Je m'aplatis. Il y a des gens qui font ça admirablement. Ils s'aplatissent dès qu'il y a la moindre difficulté. Tandis que l'homme fort résiste, il est debout. Il est debout. Et il n'a pas peur de ce qu'est le danger de mort. Il n'a pas peur. Ça ne veut pas dire qu'il ne frémit pas, mais il domine ça. Il peut avoir peur, ça. C'est évident qu'il peut avoir peur, mais il domine sa peur. Il ne se laisse pas aller à la peur. Et il est suffisamment fort pour, justement, mobiliser ses forces et regarder en face le péril de mort. C'est là où vous voyez l'homme fort. Vous voyez, parce que du côté de l'attaque, hein, il y a toujours les deux aspects de la vertu force. Saint Thomas nous dit que la vertu de force implique toujours deux effets. C'est soutenir le coup en face des périls de mort, rester debout. Ou au contraire, attaquer. Le bien ardu l'agrédit. Alors, on attaque. Soutenir, agrédit. Et Saint Thomas nous dit que la vertu de force, c'est avant tout le fait de pâtir, d'être patient en restant debout. Donc, c'est en face du péril de mort. C'est en face du péril de mort que vous jugez la force de quelqu'un. Ce n'est pas dans sa force d'attaque. Le petit roquet, vous savez. Le petit roquet, c'est pas la vertu de force. N'est-ce pas ? Il crie, il aboie énormément quand on est loin. Et dès qu'on s'approche, il file à toute vitesse. Mais c'est ça le petit roquet. Alors il a l'air d'être fort parce qu'il fait beaucoup de bruit. Mais ce n'est pas la vertu de force. La vertu de force consiste pas à faire beaucoup de bruit. Donc ce n'est pas attaquer qui est la vertu de force. C'est au contraire être capable de regarder les périls de la mort en face. C'est ça qui est la vraie vertu de force. Alors, c'est la patience. La vertu de force s'accompagne de la patience. Et la patience montre une vertu de force dans la durée. Parce qu'on peut être fort momentanément, on a beaucoup de peine d'être fort d'une façon continue. Ça, c'est la patience. La patience exprime une très grande force. C'est vraiment là où c'est la patience. C'est pas le fait de crier. ce n'est pas le fait de crier. Ordinairement, ceux qui crient très fort, c'est ceux qu'on aime. Alors ils crient pour se donner un peu de courage. Comme ça, c'est vrai, on crie pour se donner du courage. Vous voyez le petit chien, le petit roquet, c'est pas ça la force. L'homme fort reste silencieux et bâti. Mais il est intrépide, hein. Il reste net, il ne bougera pas. On l'attaquera, on le menacera de mort, il reste net, il ne bouge pas. Il garde le lieu qu'il doit garder. Aussi bien quand il s'agit de garder un lieu physique que de garder quelque chose de spirituel. Parce que la vertu de force touche les racines, mais vous comprenez bien, parce qu'elle est liée à un bien spirituel, alors elle est liée à des biens spirituels. Garder la vérité, lutter pour la vérité, et aller jusqu'au bout de garder la vérité, sans faire de concessions. Bon, les petites concessions qu'on doit faire, très bien, mais sans faire de concessions, ça demande beaucoup de patience et beaucoup de force. Être témoin de la vérité, comme dit Jésus, ça demande beaucoup de force. Surtout quand on sait que cette vérité n'est pas acceptée, quand cette vérité est rejetée. Alors crier beaucoup pour dire qu'il faut à tout prix garder cette vérité, très très bien, mais attendons le moment où l'ennemi avance. Et voyons, il y en a combien qui restent debout. C'est pour ça que ce n'est pas au moment de la victoire que vous voyez les hommes forts, ou du moins que se manifestent les hommes forts. C'est au moment où au contraire on doit bâtir la patience. Donc, la vertu de force naît dans l'irascible. Et elle naît, la prudence, en vue de la conquête de ce bien spirituel. Et toutes les difficultés qui peuvent se trouver pour la conquête de ce bien spirituel sont dépassées, sont acceptées. On s'en sert pour aller plus loin. Dans le concupiscible, la prudence est présente. D'une autre manière. Et c'est ce qu'on appellera la vertu de tempérance. Il faut toujours voir en parallèle vertu de force et vertu de tempérance. Comme il faut toujours voir en parallèle les racines des concupiscibles. Ce sont les deux vertus, j'allais dire, les plus incarnées. C'est les deux vertus qu'on touche le plus. On est conscient de la vertu. On est conscient de la vertu de tempérance. On est conscient grâce à la prudence. Et c'est par la prudence, vous voyez, que l'irascible ne connaîtra plus ses dents de scie et que le concupiscible non plus. Parce que l'irascible connaît encore beaucoup plus les dents de scie que le concupiscible. Le concupiscible, par lui-même, ne cherche pas les dents de scie. Non. Il cherche au contraire à être toujours. Mais de fait, parce qu'il est lié à des racines, alors qu'il connaîtra lui-même ces espèces, ce qu'on appellera une dépression. Quand vous dites que quelqu'un a une dépression. Il a une dépression parce qu'il est dans le mal. Ah, il est exalté. Ah oui, il est ici. C'est dans le ciel. Alors, les dents de scie proviennent de les racines liées au concupiscible. Le concupiscible, par nature, on ne serait pas comme ça. Pas du tout. Avec les racines, mais on comprend très bien parce qu'il doit lutter. Et alors, dès qu'il a un obstacle, il redégrade. Et puis après, il lutte, il remonte. C'est normal, ça, parce qu'il est dans la lutte. Il est essentiellement dans la lutte, l'irascible. Tandis que le concupiscible n'est pas dans la lutte. Le concupiscible, s'il pouvait éviter toutes les luttes, il les éviterait toutes. C'est les pacifistes, le concupiscible. C'est le pacifisme le plus absolu. Alors ça, c'est le concupiscible qui veut le bien sensible. Il y a une paix qui est une paix attitude. Hein. Ici, je parle de l'attitude du pacifiste qui essaie toujours de tout concilier. Ça lui est, au fond, ce qu'il recherche avant tout, c'est qu'il n'y ait pas de lutte. C'est l'absence des luttes. C'est fatigant, les luttes. C'est vrai, c'est fatigant. C'est fatigant de lutte. Donc, je vais les chasser. Parce que quand je lutte, je ne peux pas jouir de mon bien. On cherche la jouissance du bien sensible. Et alors, la jouissance du bien sensible fait qu'à ce moment-là, on veut tout éviter. On veut rejeter toutes les luttes. Et si on pouvait les supprimer toutes, on les supprimerait toutes. Tandis qu'au contraire, celui chez qui l'irascible domine comme tempérament, il aime la lutte. Et quand il n'y en a pas, on dort. Vous voyez ? Tandis qu'au contraire, l'homme du concupiscible, il est heureux qu'il n'y ait pas de lutte. Parce qu'il n'y a pas de lutte, on jouit. C'est très curieux, ça. Mais on sent très bien, ça, l'irascible et le concupiscible en nous. Nous sentons très bien ces deux aspects de l'un et de l'autre. Et alors, la vertu qui viendra transformer le concupiscible, humaniser le concupiscible, enlever les fièvres paludiennes du concupiscible, c'est la tempérance. Nous verrons la tempérance la fois prochaine.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs.